7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour. Les Français incités à ne plus boire d'alcool, c'est le credo de l'opération Dry January menée depuis ce premier mois de l'année, janvier sec. Une opération qui en est à sa deuxième édition, portée par plusieurs associations de lutte contre les addictions. Elle entend encourager les Français à ne plus boire une goutte d'alcool pendant un mois, à faire donc une pause dans leur consommation. S'agit-il d'un pas de plus vers l'hygiénisme, un coup dur porté aux épicuriens un mois de janvier sans alcool? Pourquoi se lancer pareil défi? Bonjour Amine Benyamina.
Bonjour.
Vous êtes addictologue et professeur de psychiatrie à l'université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. À qui s'adresse tout d'abord cette opération?
Alors, c'est une pause, comme vous l'avez très bien dit. Elle s'adresse à tout le monde, à tous les Français, à tous ceux qui consomment régulièrement et qui ne sont pas forcément en difficulté avec l'alcool. C'est ça la grande différence. Mmh. Alors, vous avez parlé du Dry January. Quand on traduit dry, on traduit par sec, c'est-à-dire zéro. C'est pas tout à fait ça. On parle plutôt du défi de janvier dans lequel, dans un contexte un peu difficile, notamment au cours de la pandémie, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a un peu majoré sa consommation, dans un pays dans lequel, évidemment, la consommation d'alcool est plutôt une tradition, notamment du vin, entre autres, mais pas que ça. Mm-hmm. On fait une pause pour s'évaluer. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation, mais on prend le temps, après les excès du mois de décembre, de voir où on en est avec la consommation d'alcool.
Voilà. Juste pour que les choses soient claires, professeur, janvier sec, ça veut dire zéro goutte d'alcool?
Alors, c'est zéro goutte d'alcool comme objectif possible, mais on peut parfaitement moins consommer, s'évaluer, faire une pause même à l'intérieur de ce mois de janvier. L'idée, c'est de pouvoir changer sa manière de voir ou de consommer l'alcool par rapport au reste de l'année. Il n'y a pas d'injonction. C'est quand même quelque chose d'assez ludique. Nos amis et collègues anglo-saxons, c'est un Britannique qui l'ont mis en place en 2013, avec un esprit de arrêtons notre manière de consommer durant l'année et voyons ce qu'il est possible de faire au cours du mois de janvier, avec comme objectif possible, mais qui peut pas être que tout le monde ne peut pas atteindre ou ne souhaite pas atteindre, c'est ne pas consommer au cours du mois de janvier. Mais ça n'est pas du tout une injonction ni une obligation.
Mais alors, bon, si je me lance dans cette aventure aussi en régie, par exemple, parce que la régie est pleine de gens courageux aujourd'hui, si l'on décide de faire un janvier sec, professeur, qu'est-ce que l'on va avoir comme bénéfice immédiat ou à court terme en tout cas?
Alors, ils sont immédiats, tout à fait. Alors, on a du recul. On a l'expérience, je le répète, des pays qui l'ont mis en place avant nous. Et puis, on a du recul, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. On est à notre deuxième édition, disons, connue, avec une véritable publicité. Eh bien, on s'est rendu compte de choses très simples. On a un meilleur sommeil. On a aussi, on est moins stressé. On perd du poids. On a un meilleur teint. On est plus en forme. Parce que même si on consomme peu, l'alcool a toujours un effet dans tous ces éléments, perturbe un tout petit peu tous ces éléments que je viens de citer. Et puis, on est moins allégé sur le plan pécuniaire. C'est-à-dire qu'on fait un peu plus d'économie sur le plan pécuniaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois passé ce mois de janvier, on s'est rendu compte que beaucoup qui ont fait le mois de janvier ou le défi de janvier ont un rapport de contrôle plus important vis-à-vis de la consommation parce qu'ils ont réussi à se mesurer vis-à-vis d'une pratique qui est une pratique qui est inscrite dans notre société, dans notre social en France. Et donc, on est plus capable de dire non. On a moins honte de dire, j'ai décidé de ne pas boire ce soir à table, ou bien je souhaite ne pas boire pendant une semaine, ou bien je baisse ma consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met en place une stratégie comme celle-là, ou bien un événement comme celui-là qui revient tous les ans, on l'annonce autour de soi, il y a moins de contraintes, il y a moins de pression sociale parce qu'elle est extrêmement importante. Il y a des personnes qui sont malades d'alcool, c'est pas le cas des Français en général, mais ils peuvent en quelque sorte se cacher derrière cet événement pour pouvoir commencer à s'en sortir aussi.
Bon, mais alors, vous êtes sûr que c'est pas un gadget, professeur? C'est-à-dire que si l'on arrête de boire de l'alcool pendant un mois, peut-être que ici des gens vont y arriver, mais si on recommence de plus belle le 1er février?
Ça arrive. C'est un gadget utile, vous avez tout à fait raison. Ça n'est pas du tout une potion magique pour faire des Français des buveurs d'eau parce que c'est la mode de la santé et le bien-être, non? Ça peut être, On veut que ça soit un gadget, mais un gadget utile. En gros, il n'est pas question que les addictologues, les médecins, les censeurs, entre guillemets, ou bien les ayatollahs de l'abstinence imposent quoi que ce soit. C'est simplement un moment dans l'année où on dit, bon, on a eu des excès. Et puis cette année, c'est particulier. On a des chiffres qui montrent que pendant les deux confinements, on a majoré la consommation de toutes les substances psychoactives, l'alcool en particulier, même si les bars et les restaurants sont fermés. Et ben, c'est une manière de revenir un tout petit peu à des niveaux de consommation moins importants, même si on n'est pas dans des niveaux de consommation problématiques. Et donc, c'est intéressant pour nous d'avoir cette possibilité de le faire, mais en commun, en collectif, dans la joie et la bonne humeur.
Professeur, si on a du mal à se lancer dans ce janvier sec, est-ce que ça veut dire qu'on a des problèmes avec l'alcool?
Alors, ça dépend. On peut avoir du mal parce que on est malade et il y a tout le mécanisme du déni que l'on connaît dans les addictions. Et donc, pour le coup, on fasse toute ce mécanisme de la motivation, ou alors on a du mal parce que ben, cette consommation, elle est inscrite dans nos habitudes et elle vient rythmer en quelque sorte le bonheur d'être ensemble et de consommer.
Mais alors
Et on
parce
se
que
rend
bon, le
compte.
bonheur d'être ensemble en ce moment, c'est un peu moyen,
C'est un
mais
peu compliqué.
justement, est-ce que je reformule, est-ce que ça doit servir de test? Il doit y avoir quelque chose qui nous alerte en pareil cas et nous dire, voilà, si je peux pas me passer d'une bière chaque soir, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
Alors, y a peut-être quelque chose qui cloche, mais qui n'est pas grave, et qui montre qu'on a organisé de manière particulière son rapport à l'alcool. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce mois de janvier est intéressant. On se soigne pas lorsqu'on fait le défi de janvier, on se situe vis-à-vis par rapport à l'alcool. Certaines questions nous sont posées. Moi, je ne bois pas beaucoup. Certains disent, est-ce que je suis éligible à un défi de janvier? Ben, on leur dit oui. Ça vous permettra de vous rendre compte que vous avez un rapport qui n'est pas compliqué avec l'alcool aussi. Et
Et
d'autres vous
alors,
disent, écoutez, moi, je contrôle, mais ils se rendent compte au bout de quelques jours, c'est difficile pour eux.
bien sûr, et professeur, la période est particulière, les bars, les restaurants sont fermés, nous vivons depuis quelques mois désormais une situation assez inquiétante. En tant qu'addictologue, est-ce que vous avez vu une augmentation de la consommation des problèmes liés à l'alcool?
Oui, incontestablement, on a plusieurs sous-groupes ou sous-types de consommateurs. Il y a évidemment les personnes que nous soignons dans nos services, qui eux se sont retrouvés seuls hein, au cours du premier confinement. Donc on a fait de la téléconsultation. Et bien, ce sont des personnes qui ont eu du mal à venir nous voir pour les aider et à distance. Et ils se sont remis à consommer. Comme vous le savez, les débiteurs de boissons n'ont pas fermé, et tant mieux. On a aussi des personnes qui ont géré à la fois la peur de la maladie de leur entourage, le confinement et le stress, avec un faux ami qui est l'alcool ou bien les substances psychoactives, partant du principe qu'il y a plus grave que ça, la maladie elle-même, c'est-à-dire le Covid lui-même. Et donc tout ça a fait de telle sorte qu'on se rende compte, à chiffres à l'appui, qu'on a majoré les produits. Et puis il y a la troisième vague, qu'on appelle la troisième vague, tout ce qui est tout l'aspect psychologique et psychiatrique, qui fait que les personnes sont stressées, anxieuses, un peu déprimées, et qui gèrent de manière maladroite, cet état par la consommation des produits qui ont un effet immédiat et éphémère.
Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina. Je rappelle le titre de l'un de vos ouvrages, Comment l'alcool détruit la jeunesse, c'est aux éditions Albin Michel.